C'est une source d'exaltation pour les uns, un ferment de problèmes pour d'autres. En Bretagne particulièrement, la pratique est très observée. Certains y consacrent même des expositions, des thèses, des livres. C'est le cas de notre invité. Et à chaque fois, des poncifs qui ressurgissent, mais aussi des paradoxes qui sont soulignés. Le boire fascine autant qu'il inquiète, fédère autour des tablés, autant qu'il divise dans les débats. Dans cette émission, le boire sera analysé comme pratique sociale et culturelle, avec ses rites, avec ses codes, en fonction de l'âge, du sexe, du contexte. Un contexte aujourd'hui bien différent à celui des années 1960. 50 ans qui ont vu la consommation d'alcool diminuer de plus de 50% selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Ainsi, nous délaissons peu à peu les cartons de piquettes au profit d'une quantité plus mesurée de crus très sélectionnés. Mais ça ne s'arrête pas là. Une heure pour étancher votre soif d'apprendre, c'est tout de suite dans Chercheurs en ville.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.
Bonjour à tous, notre invité du jour est l'historien Thierry Philaud, ce spécialiste du boire et de l'alcoolisme en Bretagne et au-delà, répond aux questions du rédacteur en chef de Place Publique, Xavier de Bontride. Bonjour.
Bonjour Ronan, santé, bonjour à tous.
Allô, et Christian Lebar, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour,
bonjour
Christian.
Ronan.
Messieurs, c'est à vous.
Merci Ronan. Oui, on a eu envie de vous inviter Thierry Philaud pour parler de cette question que vient de rappeler à l'instant Ronan Lemoyre dans son lancement. Cette question du boire, de l'alcool dans nos maisons, dans nos territoires, ici en Bretagne. Alors l'actualité nous aide un petit peu puisque s'ouvre depuis quelques jours une exposition qui va d'ailleurs durer plusieurs mois au musée de Bretagne dans le cadre des Champs Libres. Une exposition consacrée qui porte ce titre tout simple, c'est un verbe, boire. Voilà, le mot est donné dans toute sa brutalité. Vous avez participé en tant qu'historien, fin connaisseur de ces questions, au comité scientifique qui a construit cette exposition. C'était important de montrer comme ça, allez, permettez-moi l'expression, sur la place publique, cette pratique que nous pratiquons tous finalement, à plus ou moins grande échelle bien sûr.
Oui, bonjour d'abord. Je crois que c'est très important en fait d'aborder ce thème du boire pour une raison simple, c'est que c'est au cœur en fait des politiques aussi de santé, des politiques publiques d'une façon générale. Il ne faut pas oublier que la question du boire est très largement traitée. C'est un problème qu'on renvoie souvent d'ailleurs avec ou qu'on relie avec un certain nombre de problèmes, notamment le rapport du boire des jeunes et de l'alcool. Notamment.
On va en parler dans quelques
instants. C'est vraiment des thématiques en fait que l'on retrouve. Donc il est intéressant de replacer finalement ces aspects dans leur généralité, mais aussi dans la longue durée, parce que le problème, il est bien souvent que nos politiques publiques s'appuient sur de la courte durée, donc sur des observations sur quelques années, même si on peut effectivement faire référence à la baisse de la consommation depuis 50 ou 60 ans. En général, lorsqu'on regarde les faits, on les regarde depuis une dizaine d'années, et on ne creuse pas davantage, en fait, la complexité du sujet.
C'est pas du tout la démarche d'historien que vous avez retenue, puisque vous avez consacré une thèse il y a maintenant déjà quelques années, sur cette approche, les Bretons et l'alcool, 19e et 20e siècle, dont vous couvrez quasiment 200 ans d'histoire, à travers ce prisme-là. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer?
Alors en fait, je me suis aperçu, alors je dirais que c'est presque intéressant peut-être d'expliquer le départ de ce travail, parce que je crois que ça pourra faire sourire. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis intéressé à ce sujet, en fait en étant... en faisant mon service militaire, et j'avais été mis entre guillemets comme infirmier, donc dans une infirmerie militaire.
Et vous avez eu à traiter des comas éthyliques, c'est ça?
Et exactement, je me suis trouvé confronté à cette question du boire, notamment pour les retours de permission. Et donc à partir de là, je me suis interrogé, j'ai un peu regardé ce qu'il en était, et j'ai eu la surprise de constater, parce que j'étais historien, j'ai fait mon service militaire à un moment où j'ai fait mes études à Rennes 2.
Et donc, c'était à Rennes. Tout ça,
c'était
en Bretagne, oui.
Et donc j'ai fait mes études donc à Rennes 2, et à Rennes 2 il y avait eu une grande grève cette année-là, donc j'ai fait mon service militaire entre la licence et la maîtrise, et donc je cherchais un sujet de maîtrise, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler, je me suis mis à travailler sur cette question de l'alcool d'abord, du boire, à partir en regardant en fait un certain nombre de documents sur le 19e siècle, qui était la période qui m'intéressait le plus, et je me suis aperçu en fait en regardant un certain nombre de documents sur le 19e siècle, sur la Bretagne, qu'il y avait des contradictions entre d'un côté le discours qui était tenu, les représentations que l'on avait du breton alcoolique, je dirais, depuis toute éternité ou presque, et puis de l'autre côté, les éléments que l'on pouvait retrouver en termes de consommation, en termes d'habitude, de pratique, et il y avait une distorsion entre les deux, et c'est ça qui m'a conduit finalement à travailler ce sujet-là.
Christian Lebar va vous poser aussi une question sur ce sujet qui nous concerne tous plus ou moins, Christian.
Oui, c'est-à-dire quand on dit Bretagne et alcool, effectivement, immédiatement dans les esprits se crée un lien assez curieux qui relève bien sûr pour partie de la mythologie, d'une histoire supposée très longue dont on ne sait pas trop quand elle commence, et puis qui relève aussi quand même du constat social sociologique froid, sur. Sur la réalité des consommations. Alors, comment on fait quand on est historien? Quelle place on accorde à cette mythologie? Est-ce que c'est un obstacle à la connaissance ou est-ce que ça en fait partie?
Non, ça en fait partie parce que l'élément en fait qui est important à souligner, c'est que derrière tout stéréotype, il y a de toute façon une part de réalité, une part de vérité. Donc il faut chercher un petit peu à comprendre ce qui relève finalement de l'exagération, de la manière en fait de présenter les choses, peut-être d'une certaine représentation et de ce que l'on veut faire passer derrière la représentation, et puis d'essayer de comprendre en fait ce qu'est la réalité du boire, et notamment en fait en milieu rural, là en l'occurrence en Bretagne.
Mais on peut la dater précisément, la construction de cette mythologie du breton alcoolique?
Alors c'est, je dirais qu'elle se construit essentiellement quand même dans le courant du 19e siècle, et notamment dans la seconde moitié du 19e siècle, on retrouve beaucoup d'écrits en fait à cette période sur la question justement qui présente les Bretons comme des ivrognes d'abord et comme des alcooliques ensuite. Et le problème, l'élément important justement est d'essayer de comprendre la différence qu'il y a entre ivrognerie et alcoolisme.
Et alors aidez-nous justement à bien poser les mots et comprendre le sens des termes. Expliquez-nous.
Je crois que ce qu'il faut, c'est remonter finalement un petit peu à l'origine du mot alcoolisme en lui-même, puisque les travaux finalement le concept en lui-même est dû finalement à un médecin suédois qui est Magnusius, et donc qui publie un ouvrage finalement en 1849 sur l'alcoolisme. Il est suédois, donc il travaille bien entendu sur le monde ouvrier et suédois et en fonction des consommations que l'on observe en Suède.
Donc c'est la Covid plutôt là-bas, des alcools forts.
Exactement. Et donc on est en fait dans cette approche. L'ouvrage n'a pas été traduit en français. En fait, il est traduit en allemand et connu par ce biais en fait en France. Et donc en France, il est repris par les médecins qui travaillent sur le sujet. Mais les médecins, en fait, l'approche qui va avoir lieu, qui va se développer, c'est de réduire la perception, en fait, de l'alcoolisme à la consommation d'alcool, aux conséquences, en fait, de la consommation d'alcool, mais alcool au sens de boisson distillée. Et non pas de prendre, en fait, en compte l'ensemble des boissons alcooliques, donc, y compris les boissons fermentées. Et c'est là qu'il y a véritablement le point de départ, en fait, de l'approche, au point, alors ça repose, en plus, à l'époque, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, souvent, à souligner, c'est qu'aujourd'hui on aime bien mettre en avant les preuves scientifiques. À l'époque, on s'appuie sur les preuves scientifiques du moment. C'est-à-dire que pour montrer finalement que la consommation d'alcool est surtout concernée, que l'alcoolisme c'est la conséquence des boissons spiritueuses, en fait on fait une analyse, on regarde, on compare, et les comparaisons permettent de constater que finalement selon les critères que l'on prend, sont alcooliques les Français du nord, au nord de la Loire, alors qu'au sud de la Loire, les Français sont moins alcooliques.
Et tout ça, c'est le fruit d'une pratique de consommation différente selon les habitudes régionales.
Voilà, c'est ça. Et puis donc, des pratiques qui sont aussi liées, c'est les constats, lorsqu'on regarde les statistiques, c'est la place du monde ouvrier, c'est donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Mais à l'époque, peu étudiés, on repose simplement sur des approches relativement simples.
Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux,
mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Si on revient en Bretagne quelques instants et si on est dans la longue période qui est votre terrain de jeu privilégié, au 19e siècle, les Bretons, qu'est-ce qu'ils boivent? Alors, on a en tête du cidre peut-être, oui. Mais pas seulement.
Alors c'est là la caractéristique, ce qui va faire que les Bretons vont être considérés comme des alcooliques très rapidement, c'est qu'ils répondent en fait à deux éléments qui sont considérés comme justement l'alcoolisme. Alors d'une part, l'ivresse, c'est-à-dire qu'il y a des comportements d'ivresse importants, et de l'autre côté, ils boivent des alcools forts. Alors c'est surtout vrai en Basse-Bretagne. Il ne faut pas oublier quand même que la consommation, la production de cidre se développe à partir de la Haute-Bretagne, s'étend peu progressivement sur la Basse-Bretagne, notamment avec le développement du chemin de fer. Mais donc on a une approche relativement lente. Et finalement, au milieu du 19e siècle, en Basse-Bretagne, dans le Finistère, on consomme peu de cidre, on consomme peu de vin.
Alors, qu'est-ce qu'on
boit ? Et donc on consomme en fait essentiellement de l'eau, du lait. Au
ça,
quotidien,
ça voilà. Ça, c'est bon.
Et puis, lorsque l'on a de boire, en fait, on boit des alcools forts. Donc, du rhum ou des alcools de vin, etc.
Voilà. Et ça, effectivement, ça cause des dégâts de santé publique. Et ça implique aussi des comportements que l'on observe dans la cité, sur la voie publique. Il y a des rixes, il y a des bagarres, il y a des phénomènes qui découlent de cette pratique.
Il y a automatiquement des phénomènes. Bon, il y a aussi des problèmes de santé, c'est obligatoire, mais en même temps, quand on regarde un petit peu les éléments, on s'aperçoit que c'est relativement quand même faible au regard de ce qu'on pourrait ou ce qu'on semble vouloir nous dire.
Et on a l'impression, en vous écoutant, mais je parle sous le contrôle de mes coéquipiers, là, que vous minorez un petit peu cette tradition et, j'allais dire, vous l'excusez presque, non ?
Ah, je ne sais pas si c'est l'excuser, je crois qu'il faut effectivement aussi la rapporter à la réalité du moment, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes d'ivresse, bon, des phénomènes d'ivrognerie, c'est-à-dire de répétition de manifestations d'ivresse. Donc des manifestations d'ivresse qui ont lieu en fait en milieu rural, qui ont lieu à l'occasion en fait de fêtes ou bien de réunions en fait collectives, c'est-à-dire ça va être les foires, les marchés, ça va être les pardons, ça va être à la limite la sortie de la messe le dimanche, etc. Donc c'est une approche très très épisodique en fait, très périodique.
Mais et qui se donne à voir peut-être davantage qu'ailleurs, parce voilà. Qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y a dans cette région, peut-être plus encore qu'ailleurs, des moments importants de vie collective, de rassemblement et qui permettent d'être l'expression aussi de ce genre de pratique.
Oui, et puis c'est quelque chose en fait qui est montré, qui est vu. C'est-à-dire qu'il suffit de penser à des tableaux, par exemple le tableau d'Olivier Perrin qui est au musée breton à Quimper, où c'est un petit tableau mais qui est très significatif, où on a en fait, on nous présente la foire de Quimper donc à la fin du Premier Empire. Donc c'est grosso modo en fait dans les années 1820 grosso modo apparemment, et le tableau en fait présente le champ de foire, présente un certain nombre d'activités sur le champ de foire, donc bien entendu la vente de produits mais aussi le fait que l'on mange, que l'on boit, que l'on danse, et puis il y a sur le côté du tableau, il y a le chemin du retour, et là on voit des hommes ivres qui sont en train de s'appuyer les uns sur, enfin qui sont adossés l'un à l'autre ou bien qui sont carrément
et ça titube pas mal,
voilà, voire carrément ivre mort dans les fossés, quoi.
Christian Lebar.
Oui, ce que vous dites suggère une vraie intégration des pratiques de consommation d'alcool à toute une série de rites sociaux. Je ne sais pas s'il faut parler d'institutionnalisation, mais est-ce que c'est intéressant pour un historien de faire la différence entre une consommation d'alcool qui serait dans l'institution, dans les rituels de la vie sociale, et une pratique qui serait un peu interstitielle, dans la rue, enfin, je sais pas, c'est aussi l'image des villes portuaires où vous allez avoir une consommation d'alcool un peu moins régulée, un peu plus inquiétante, et qui va nourrir tout un imaginaire de la délinquance, de la violence, etc. Donc, comment ça se polarise?
Je crois que ce qui caractérise véritablement en fait les débuts, la période que j'évoque finalement le milieu du 19e siècle, et petit à petit on va justement combattre cette approche, c'est qu'on a une ivresse publique. Et il ne faut pas oublier que la première grande loi anti-alcoolique, c'est quand même la loi sur l'ivresse publique de 1873, et que cette loi sur l'ivresse publique, elle s'attaque finalement à l'ivresse manifeste. C'est ce qui est mentionné dans le texte, on parle d'ivresse manifeste. Donc on voit bien que ce qui finalement est retenu, ou ce qui attire l'attention des élites, des notables, c'est la question finalement d'un boire visible. Et ça va même très loin, puisque dans les années 1800...
Visible et socialisé aussi.
Et socialisé, ça va même assez loin, puisqu'en 1859, on a un écrit d'un Finistérien qui propose en fait des mesures pour lutter contre justement l'ivresse, l'ivrognerie du monde ouvrier. Et ce qu'il propose, c'est de développer des coopératives. Alors, coopératives pour vendre du vin, et donc leur apporter du vin, puisqu'on considère que le vin protège de l'alcoolisme. Mais à cette époque, hein, soyons bien clairs. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que derrière sa démarche, ce qu'il veut mettre en avant, c'est que dans ce cas-là, les ouvriers vont boire chez eux, et non plus dans la rue. Donc ça ne sera plus visible. Donc finalement, qu'ils s'alcoolisent davantage ou pas, voilà.
Bourgeoise dans tout ça, finalement.
Voilà, c'est un regard, et puis d'ailleurs, c'est la comparaison.
Ce qui veut bien dire qu'il y a une problématique d'ordre public, et voilà. Pas seulement de lutte contre l'alcoolisme.
Voilà, exactement. C'est même sans doute l'élément un peu majeur, c'est le rôle du contrôle social.
Christian Lebar évoquait la situation singulière des ports de Bretagne, et on peut peut-être évoquer à cette occasion l'initiative de la création des abris du marin à la fin du 19e, qui avait justement pour vocation d'offrir un havre et peut-être aussi un encadrement de cette population qui pouvait succomber à cette tentation-là.
Ah oui, exactement, parce que là, c'était l'initiative en fait de Jacques de Tézac, qui justement répond à cela, c'est-à-dire à la fois encadrer la population des marins, et notamment les marins pêcheurs. L'idée, c'est certes, faut quand même reconnaître qu'il y a effectivement le combat ou la lutte contre l'alcoolisme, mais il y a beaucoup d'autres activités, je crois, dans les abris du marin, lancés par Jacques de Tézac. Et je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est une approche globale. Quelque part, c'est un peu un modèle en termes aujourd'hui de prévention ou d'éducation pour la santé, d'ailleurs. Bon, avec, bien entendu, en resituant dans l'époque, hein, puisqu'il y a derrière aussi une approche très moralisatrice.
Il est bon, votre vin blanc.
J'en bois toute la journée.
Ah bon? Sans blague, t'arrives pas à vous croire.
Je me déplace pas sans ma bouteille dans le seau à glace. Je vais aux chiottes, j'emporte mon seau à glace. Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons.
Alors, on est parti de loin pour bien comprendre la dimension historique de ce phénomène de l'alcoolisme. On va peut-être s'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui, une singularité au regard de la situation de la jeunesse, et singulièrement de la jeunesse en Bretagne, par rapport à ce phénomène du boire. Mais avant cela, peut-être une évocation. Il paraît que quand on avait 6-7 ans en Bretagne, on avait des leçons d'ivrognerie au début du 20e siècle. C'est vrai, ça?
Ah non, c'est au début du 19e siècle.
Ah, bon. Mais quand même, racontez-nous, de quoi s'agissait-il?
Alors en fait, c'est les fameux textes reproduits, en fait, qui sont rédigés par Alexandre Boët qui était un journaliste, à partir en fait de gravures qui ont été réalisées par Olivier Perrin, donc qui est un peintre bien connu en Bretagne.
Voilà. Que vous avez toujours cité tout à l'heure. Toujours.
Parce que bon, il a une approche, en fait, un certain nombre de tableaux, de peintures qui correspondent, qui apportent une approche un peu ethnographique. Et donc, en fait, dans cette première leçon d'ivrognerie, ce que l'on nous montre, c'est la situation en fait d'un garçon. En fait, l'histoire, elle, d'ailleurs, c'est la construction de des gravures la vie des Bretons de l'Armorique, c'est cela, c'est l'histoire en fait d'un garçon, de sa naissance jusqu'à son mariage. Et donc on a tous les rites sociaux autour de l'existence de ce garçon, finalement, jusqu'à son mariage. Donc
La première cuite, alors, c'est
quoi? Donc la première leçon d'ivrognerie, il a 7 ans, donc c'est l'âge de raison pour l'Église catholique, il ne faut pas négliger cela, c'est l'âge de raison. Donc il va aussi, un élément central, c'est le moment où il reçoit son premier habit d'homme. Et donc, en fait, où il reçoit bien ses premiers bragoubras, donc en fait, la première culotte. Et donc, alors que les enfants, en fait, garçons et filles, portent en fait une robe jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Donc, notre Corentin, puisqu'il s'appelle Corentin, arrive à l'âge de raison, il obtient son premier habit d'homme, et là, finalement, ce qui va se produire, c'est qu'à la fin d'un pardon, eh bien, il va avoir cette première leçon d'ivrognerie, donc ce qui montre bien que c'est dans le cadre, en fait, de la collectivité ou de la communauté.
C'est très socialisé.
C'est très socialisé.
voilà. Comme dirait voilà, Christian.
Et donc notre garçon va donc être alcoolisé. Et ce qui est intéressant, c'est la manière de présenter les choses. On voit d'abord, en fait, même le texte reprend la gravure. Et sur la gravure, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les hommes qui sont assis sur le champ, et vous avez des femmes debout. Alors il y a aussi un autre homme, mais ce sont essentiellement en fait les femmes. Donc il y a la mère et la marraine. Et ce qui est intéressant, c'est que le garçon, donc c'est le grand-père qui lui donne à boire, et on voit en fait le garçon, le père et la mère sont en fait entre les deux, entre la marraine et puis le grand-père, quoi, finalement. Et donc la marraine, elle représente bien ce que représente le parrain et la marraine.
C'est presque un baptême laïque, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, la marraine, c'est la sagesse qu'elle doit représenter. Donc, et puis, et en même temps, les parents, finalement, font comprendre à la marraine, que notre Corentin a bien le droit de découvrir la vie à cet âge-là. Et donc, on l'autorise à boire. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière de boire. Parce que dans le texte, on a à la fois, Dalmat, tiens bon. Donc c'est uniquement, en fait, on voit bien que s'il ne s'agit pas d'apprendre à goûter le vin, et d'ailleurs à la limite, on sait que c'est du vin, mais on sait pas trop, ça pourrait être de l'alcool, ça pourrait être n'importe quoi, ça n'a pas en soi en fait d'importance. Ce qui est important, c'est l'acte de boire et l'acte de s'enivrer, ouais. Puisque
et
la volonté c'est
dans
tenir,
une communauté
c'est tenir
d'hommes, bon, voilà. Établi de cette manière. Christian.
Oui, c'est ça, c'est une communauté d'hommes, c'est-à-dire voilà. Que ça participe aussi de la fabrique de la masculinité. Alors peut-être ça permet de faire un lien avec la question du genre, parce que au 19e et je crois pendant une bonne partie du 20e, le rapport à l'alcool participe de la virilité, des critères de définition de la masculinité, en particulier au milieu populaire, mais sans doute pas seulement. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ça bascule à quel moment?
Alors d'abord, ce qu'il faut bien souligner, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser, il y a des comportements en fait ou des alcoolisations féminines, mais qui sont en fait assez peu mises en évidence. Il est très difficile en fait de les repérer au 19e siècle.
Oui, parce qu'ils sont scandaleux.
Mais voilà, c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux pour ceux qui finalement écrivent ou traitent du sujet.
Et qui se trouvent être des hommes.
Et qui se trouvent être des hommes. Et donc on ne voit pas finalement les femmes boire.
Donc ça veut dire c'est une consommation d'alcool clandestine, solitaire.
Non, pas du tout. Justement,
non,
c'est bien là le problème.
Elle est aussi sociale.
Elle est sociale aussi.
D'accord.
Et justement, elle est peu mise en valeur par les témoins.
D'accord.
Mais en fait, elle est bien sociale. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est souvent mentionné pour la Bretagne, pour le milieu du 19e siècle, c'est que c'est toute la famille qui va s'enivrer dans les foires et les marchés. C'est pas simplement les hommes. Et donc, c'est Émile Souvestre qui reprend la formule, dit, en fait, c'est femmes, enfants, vieillards. Donc, tout le monde, en fait, s'alcoolise. Et il y a certains témoins, d'ailleurs, qui disent que finalement, au retour, donc, comme ils reviennent avec le char à banc, il y a que le cheval qui connaît le chemin du retour, quoi. Donc, on voit bien que c'est un cadre tout à fait général et c'est intergénérationnel. Là, on n'a pas ce qui pourrait être justement la grande différence avec aujourd'hui, notamment chez l'alcoolisation ou les débuts de l'alcoolisation chez les jeunes, c'est que ça se fait essentiellement entre pairs. Alors qu'avant, ça se faisait dans un cadre donc très encadré, y compris par les adultes.
Alors justement, vous évoquez la jeunesse, la question du genre, on va peut-être prendre un peu plus de temps encore pour l'aborder en fin d'émission. J'aimerais qu'on reste un petit peu sur la situation contemporaine de la pratique de la boisson, du boire comme on dit, dans les jeunes générations. Ici aujourd'hui en Bretagne, dans les grandes villes, ici à Rennes par exemple, on connaît les rituels hebdomadaires, il y a évidemment le jeudi soir, il y a certains grands rassemblements de cette nature. Quel regard vous portez justement, éclairé par les connaissances historiques qui sont les vôtres, pour décrypter les comportements contemporains?
Alors je crois que ce qui est intéressant à souligner pour la période récente, c'est aussi le stéréotype et là encore la manière dont on perçoit l'alcoolisation des jeunes. Je crois que ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les travaux sur l'alcoolisme ou la même, il suffit de prendre les derniers travaux publiés, présentés justement dans le cadre de l'OFDT, etc. On voit bien que l'on parle en fait de la consommation. On va avoir des articles sur la consommation d'alcool en France en 2014. Et puis finalement, on focalise beaucoup sur l'alcoolisation des jeunes. Donc c'est un peu la question aussi que moi, qui a retenu mon attention. C'est pas tant pourquoi les jeunes boivent ou qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils boivent moins.
Pourquoi c'est, on s'intéresse
en fait, mais pourquoi on s'intéresse justement au boire des jeunes plutôt qu'au reste? Puisque quand on regarde bien les statistiques aujourd'hui, certes, les jeunes ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils s'enivrent. Il y a des
et puis ça se voit, non? Parce que c'est ça, il y a des comportements publics.
Mais en revanche, lorsqu'on regarde les usages réguliers d'alcool, je regrette, mais ce sont les plus âgés qui boivent de façon régulière.
Oui, mais est-ce que là, on retrouve pas l'opposition entre alcoolisme et ivrognerie? C'est-à-dire, l'alcoolisme est bien intégré au rituel de la vie sociale, alors que l'ivrognerie fait désordre.
Oui, c'est un peu cet élément-là, même si l'on peut pas forcément parler d'alcoolisme et d'ivrognerie, mais c'est vrai que c'est... Alors pour l'ivrognerie, peut-être davantage, puisqu'on a la répétition des manifestations d'ivresse et que l'on insiste, en fait, sur ces répétitions. Mais c'est vrai que c'est cela qui retient l'attention, parce que ça met en question, je dirais aussi, le monde adulte, et puis, d'une façon générale, la vie, les politiques publiques, etc. Et en même temps, c'est aussi une remise en question des luttes, enfin de la prévention telle qu'elle a été envisagée depuis les années 50, les années 60.
Alors vous évoquiez tout à l'heure cette évocation historique du jeune Corentin au début du 19e siècle qui avait sa première leçon d'ivrognerie, bon, avec toute la dimension passage symbolique et ritualisé qui accompagnait ce moment. Est-ce que finalement ce que vivent aujourd'hui les étudiants qui arrivent à Rennes pour leur première année de fac et qui dans les premières semaines découvrent cette vie, la rue de la soif, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là non plus une sorte de passage obligé, de rituel collectif qui fait partie d'une étape dans la construction aussi de du passage de l'adolescence à l'adulte, d'une certaine manière.
Ce que considèrent en fait un certain nombre de collègues sociologues sur la manière justement de la ritualisation. Je crois que ce qui fait la différence finalement avec le 19e siècle et avec notre Corentin, c'est que notre Corentin, lui, il rentre dans le monde adulte. C'est-à-dire que en fait, c'est le passage de l'enfance directement à l'âge adulte. Enfin,
là aussi, l'époque. Non.
Alors que là, on peut... Est-ce que c'est vraiment l'âge adulte? C'est plutôt une phase de transition pour accéder à l'âge adulte.
Il y a moins de Corentin et beaucoup de Tanguy finalement, qui restent encore longtemps chez leurs parents. Et...
Mais disons que je crois qu'on est dans une période plutôt de transition, effectivement, transition après le bac, où on entre en fait dans le cadre des études universitaires, et finalement des premières années d'ailleurs des études universitaires. Puis après, la tendance est d'ailleurs une tendance plus à un usage plus régulier, moins d'ivresse finalement.
Et les produits consommés, eux aussi, ont évolué considérablement. Et là, vous avez fait des observations là-dessus sur ce que l'on met dans les bouteilles et ce que l'on boit?
Alors, ce que l'on met dans les bouteilles, de toute façon, il y a des grands changements.
J'utilise cette formule parce que, apparemment, il y a aussi beaucoup de manipulations de préparation de cocktails peu personnalisés.
Voilà, c'est exactement ça. Mais je crois que c'est aussi lié à des éléments aussi un peu, comment dire, liés.
Économique peut-être.
Économique, exactement. Donc avec des produits que l'on va acheter dans des hyper, voire ou des supermarchés
on n'est pas regardant sur la carte d'identité de celui qui.
Oui, de toute façon, on va trouver quelqu'un plus âgé qui va acheter. De toute manière, soyons, il y a toujours des biais pour arriver à pouvoir récupérer dans le buffet des parents. Il y a toujours moyen, de toute manière, de trouver une solution. Mais c'est vrai que c'est une approche aussi une question un peu économique. Ça la coûte moins cher que
de même qu'il coûte moins cher de boire sur une place que d'aller au café
exactement,
ou au bistrot.
C'est pas du tout. Et puis en même temps, il y a de moins en moins de cafés, de bistrots.
Ouvert tard le soir. Ça, c'est un autre sujet. On en a parlé dans le dernier numéro de la rue Place Publique sur les temps de la ville, effectivement. Il est temps de faire une pause dans cette émission. On va écouter un titre de Circonstance. C'est Mieux sec. Non, 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 je ne suis plus sous. C'était dans son album Boire, le bien nommé, sorti en 1995. On l'écoute tout de suite.
Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et déjeunons à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Accroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un. Et tes yeux brillent si fort comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et te genoux à terre. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Je crois en toi, c'est tout. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Non, je veux de toi, c'est tout.
Miossec ne sera plus sous, non, 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 non. Sorti en 1995, extrait de son album Boire. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville. Ce mois-ci, Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, l'UEB et Canal B s'intéressent à la question du boire. Dans notre première partie, notre invité, l'historien Thierry Philo, soulignait l'importance de placer cette pratique dans un contexte. On a par exemple évoqué la consommation d'alcool en Bretagne au 19e siècle, et des habitudes qui correspondaient à des moments de vie importants. Comme les fêtes, les foires, les marchés. Donc au-delà du mythe du breton alcoolique, il y a bien une réalité sociologique à prendre en compte. Et la question se pose aussi au présent, notamment lorsque l'on parle de l'alcoolisation chez les jeunes. On pense forcément au jeudi soir rennais. Là encore, ce boire visible et socialisé attire l'attention des élites qui observent ces phénomènes parfois inquiétants, mais aussi considérés comme des instants clés dans le passage de l'enfance à l'âge adulte. Le boire évolue donc en fonction du contexte, je le rappelle, et dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville, vous l'entendrez, les pratiques ne sont plus propres aux zones géographiques, réseaux sociaux ou Erasmus aidant. Elles ne sont plus non plus réservées aux hommes et l'alcoolisation des femmes est de plus en plus observée. On s'intéressera aussi à la question de la prévention ainsi qu'à la méthodologie de travail de notre invité Thierry Philo, spécialiste du boire, qui répond aux questions de Xavier Debontry, des rédacteurs en chef de Place Publique, et Christian Lebar, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.
Les jeunes boivent différemment aujourd'hui qu'hier. Ils boivent des alcools peut-être plus forts et ils le boivent aussi dans des temps différents. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un instant avec vous, Thierry Philo, à ce que les anglo-saxons appellent la pratique du binge drinking, ou encore en français biture express, cette capacité à se mettre minable en un temps record, qui quand même semble faire aujourd'hui partie un peu des figures imposées du parcours initiatique dont nous parlions tout à l'heure dans cette émission.
Oui, alors je crois que ça, c'est un élément aussi qui est important à souligner, dans la mesure où on a un peu l'impression quand même que depuis, disons, une vingtaine d'années, on entre vraiment dans une européanisation des modes de boire chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on a véritablement des comportements qui se ressemblent de plus en plus.
De Berlin à Londres en passant par Madrid, c'est la même chose ?
Pas tout à fait, mais en allant peut-être même plus haut, en passant Stockholm, etc. Donc je crois que on est quand même dans une approche où il y a effectivement des comportements d'ivresse plus importants.
Est-ce que c'est pas un effet Erasmus, vous savez, ces échanges d'étudiants qui ont permis de justement d'aller faire ses études un peu partout et donc du coup de partager un peu les mêmes modes de vie, y compris dans leur dimension festive ou...
Certes, mais je crois qu'il y a aussi Internet, les réseaux sociaux, etc. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'éléments...
C'est l'époque qui veut ça.
Voilà, qui permettent en fait d'avoir des comportements qui se ressemblent. Il y a aussi l'effet lié, je dirais, tout ce qui est cinéma, éventuellement publicité, etc.
Une forme de standardisation des comportements.
Une forme de standardisation des comportements. D'ailleurs, ce qui est assez un élément aussi qui est important à souligner, c'est qu'en même temps qu'on a ce type de comportement, on voit aussi que l'augmentation en fait des pratiques d'ivresse en fait se fait chez les filles. C'est-à-dire que finalement les garçons restent à peu près au même niveau depuis une dizaine d'années. Par contre, on a une forte augmentation des comportements des moments d'ivresse chez les filles.
Christian Lebar.
Oui, parmi les questions que pose cette ivresse, il y a peut-être celle-ci. On disait beaucoup avant que l'alcool ça avait un rôle de désinhibant, en référence à des sociétés où les gens étaient très tenus et où l'alcool permettait un peu de sortir de contraintes sociales très très rigides, de rôles sociaux, etc. On n'est plus du tout dans ce contexte-là.
Et pourtant, on boit toujours.
Aux étudiants, le rôle d'étudiant n'est pas très 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 contraignant. Il n'y a pas de stress particulier.
Oui, mais il y a peut-être des besoins de désinhibition aussi au niveau, au niveau même des relations garçon-fille, par exemple, au niveau en fait de l'âge, de l'adolescence. Donc il y a aussi ces éléments-là qui doivent être pris en considération. Il n'y a pas simplement que le fait de se situer par rapport à la société et notamment aux adultes. Je crois que c'est aussi le lien entre les pères eux-mêmes.
Il y a également peut-être une modification de l'environnement socio-économique et la pression qu'évoquait Christian à l'instant s'exerce peut-être maintenant moins finalement à l'intérieur des familles que dans la société elle-même avec les difficultés d'insertion professionnelle, la crainte du chômage, l'absence de perspective. Mmh. Et c'est peut-être cette pression-là qui alimente finalement la poursuite des pratiques vis-à-vis de l'alcool.
Mais là, du coup, la même chose. C'est quand même pas la même chose de boire pour échapper à la surveillance d'un patron ou de l'église, etc., ou de boire parce qu'on fait des études et on ne sait pas à quoi ça conduit.
Oui, effectivement, là, je dois avouer que l'historien que je suis est plus mal à l'aise pour répondre à ce genre de questions, mais c'est vrai que c'est certainement une observation.
Vous évoquiez dans votre réponse à l'instant, Thierry Philo, cette distinction de genre entre les pratiques des garçons et des filles. Ça vaut le coup, effectivement, qu'on s'intéresse et qu'on s'arrête un petit peu dans cette émission sur cette approche différenciante par le genre. Qu'est-ce que les études que vous menez vous enseignent à ce sujet? Y a-t-il véritablement des différences dans les pratiques, dans les premières fois, dans les types aussi d'alcool consommés? Qu'est-ce que vous observez?
Il y a effectivement des différences notables, notamment si on prend sur une plus longue durée. Bon, sans remonter nécessairement au 19e siècle d'ailleurs, mais en reprenant sur, ne serait-ce qu'en comparant le discours de personnes d'aînés aujourd'hui sur les pratiques de boire, on voit bien que dans les années 50-60, par exemple, il était très mal vu qu'une femme puisse consommer. Et donc d'ailleurs, il y avait un certain type de boisson qui était plutôt réservé aux femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire que les femmes buvaient du doux, donc des boissons moins alcoolisées ou des boissons en fait type plutôt apéritif, du bonnet et autres boissons de ce type, alors que les hommes boivent plutôt en fait des boissons plus alcoolisées, plus fortes. Donc on est dans ce cadre-là. L'autre élément qui est important aussi, c'est que c'est une constante en fait de l'anti-alcoolisme dès son origine dans les années 1870 jusqu'à une période très récente, et encore on peut le retrouver aujourd'hui, c'est aussi le lien qui est fait entre la femme et la mère ou la future mère, et donc cette notion de maternité, cette notion pendant tout le 19e, enfin une grande partie du 20e siècle, on voit au travers de la femme qui boit une mauvaise mère, une mauvaise épouse, et donc qui met en question finalement le devenir de la famille. Et cette idée-là, elle se développe très largement d'ailleurs au début du XXe siècle, l'entre-deux-guerres, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de la dépopulation, il y a la peur de la baisse démographique.
Oui, il y a un devoir national.
Voilà, il y a le devoir national, et donc cela fait partie en fait des contraintes qui sont imposées aux femmes. Alors avec très vite des éléments assez importants, c'est-à-dire le lien qui va être fait, par exemple, entre la femme de mauvaise vie et la femme alcoolique. Et c'est aussi les éléments que l'on va retrouver au début du XXe siècle, on retrouve pendant la guerre 14-18 aussi, sur un certain nombre d'arrêtés municipaux, ou de décisions prises au niveau de l'État, pour justement faire en sorte d'empêcher les femmes d'aller dans les débits de boissons. Et donc avec cette association, une femme qui est assise dans un débit de boissons est suspectée...
C'est qu'elle cherche autre chose que simplement... Voilà.
Et alors cette dissymétrie homme-femme... C'est très passionnant, hein. Vous montrez bien que c'est très 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 importante dans l'histoire. Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui?
Alors elle existe toujours.
On a un peu l'impression d'une standardisation.
Même s'il y a une standardisation, même si c'est ce que je disais tout à l'heure, on a effectivement des pratiques d'alcoolisation qui s'accentuent chez les filles. Ouais. Bon, certes l'écart se réduit, mais il y a toujours des distinctions quand même entre les hommes et les femmes, et puis des distinctions qui sont d'ailleurs très largement développées aussi par le commerce, par le marketing. Il suffit aujourd'hui de regarder toutes les pubs qui existent sur les cidres rosés, sur les vins rosés, sur un certain type de packaging des produits, etc. On voit bien qu'on a une représentation du boire féminin qui est particulière.
C'est devenu un enjeu de marketing.
C'est un enjeu de marketing, voilà. Et donc on a bien cette distinction qui s'opère.
Vous l'exprimez d'ailleurs très très clairement dans un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Marie-Laure Deroff et qui a été publié aux presses de l'École des hautes études en santé publique. public, le HESP, qui s'intitule « Boire, une affaire de sexe et d'âge ». Ça vient de sortir. C'est vraiment tout à fait intéressant de voir comment vous êtes allé justement avec vos collègues interroger cette différence, cette approche, et vous insistez notamment dans cet ouvrage sur cette approche marketing genrée, si vous me permettez la formule, à l'égard des produits alcoolisés. Hein. C'est très nettement mis en valeur dans cet ouvrage, parmi beaucoup d'autres sujets passionnants.
Oui, tout à fait, parce que l'idée, c'était justement de partir de là, d'essayer de montrer, alors bon, même si le titre, c'est sexe et âge, en fait, on est dans une approche, puisqu'on avait rajouté un léger sous-titre, qui est genre et génération, puisqu'en fait, c'était s'inscrire aussi dans ces démarches, c'est-à-dire essayer de voir finalement derrière les pratiques, c'est pas simplement s'intéresser aux statistiques, aux éléments épidémiologiques, différences hommes-femmes, ou différences selon les âges, c'est d'essayer de comprendre justement quelles sont les différences plutôt socialisées, ce qu'il y a derrière finalement ces différences.
Et ces différences que vous avez pu observer sur un échantillon plutôt français, est-ce que vous avez établi des comparaisons internationales? On parlait tout à l'heure d'une forme de standardisation un peu européenne des pratiques du boire chez les jeunes. En ce qui concerne cette différence homme-femme, vous la retrouvez ailleurs?
Justement, en fait, il y a dans l'ouvrage en fait un texte de Gaël Leroux qui est d'origine bretonne, ce nom il le porte bien, mais qui est en fait enseignant en Irlande et qui depuis très nombreuses années, il est installé en fait en Irlande et qui travaille justement sur la question en fait de l'évolution du binge drinking en Irlande. Et dans le texte qu'il a présenté en fait dans l'ouvrage, ou qu'on présente dans l'ouvrage, finalement il montre justement ces changements, c'est-à-dire pour lui c'est le passage en fait d'une alcoolisation, il dit en fait le binge drinking du grand-père au binge drinking de la petite fille, où il montre bien qu'il y a une transformation profonde, une forte augmentation en fait de l'alcoolisation et des pratiques d'ivresse chez les filles, et il met en relation en fait cette évolution, cette augmentation de l'alcoolisation des filles avec deux choses, c'est à la fois finalement la question de l'identité féminine et la question en fait de l'identité irlandaise, parce qu'il montre que les comportements en fait d'ivresse manifeste de la part des filles en Irlande se fait beaucoup plus chez celles qui sont en fait irlandaises que les filles qui arrivent en fait en Irlande pour des études, etc.
Encore un ouvrage peut-être que on n'a pas mentionné mais qui répond aussi à ces questions-là, c'est celui que vous avez publié toujours aux presses de l'EHESP en 2013, Tous en piste, point d'interrogation, les jeunes bretons et l'alcool de 1950 à nos jours. La piste, oui, c'est vrai que c'est l'expression qu'on utilise ici en Bretagne pour désigner les sorties festives et alcoolisées. Ça, c'est ce matériau-là que vous avez travaillé aussi à travers cet ouvrage. Peut-être pouvez-vous nous en donner un ou deux exemples.
Oui. De la piste, d'ailleurs, c'est assez intéressant de souligner que des étudiants avaient fait un mémoire sans prétention il y a quelques années en fait sur justement auprès des étudiants avec une enquête en fait auprès de 200 étudiants à l'université de Bretagne Sud, et en fait ce que l'on avait constaté, puisqu'il y avait une des questions qui portait simplement, donc question ouverte, comment est-ce que vous désignez l'ivresse, c'était assez intéressant à constater que sur les 200 étudiants aucun n'a mentionné le mot piste. Donc ça, c'est vraiment un moment aussi, un mot qui correspond à une période très forte, finalement les années 80-90, où la piste a été fortement médiatisée. Et depuis, on voit bien que le terme, en fait, même à Brest,
il est tombé en désuétude aujourd'hui.
Il tombe largement en désuétude, ouais.
On dit quoi maintenant d'ailleurs ?
Ah il y a plein, tirer une mine, etc. Enfin,
vous avez du vocabulaire, je vois.
Avec l'alcool, elle pensait pouvoir vivre une fête éternelle. Elle a traversé l'enfer. Tout commence par un verre quand elle a 18 ans. Puis c'est l'engrenage. À 23 ans, elle est alcoolique. Après ses études, elle décroche un poste d'hôtesse de l'air dans une grande compagnie aérienne allemande. Mais l'alcool est toujours là.
Dans les longs courriers, j'arrive le soir. Je bois le soir parce qu'on fait la fête. La nuit, je rentre dans la chambre. Je ne peux pas dormir à cause du décalage horaire. Je bois pour passer la nuit quand même, pour essayer de dormir. Le matin, je ne peux plus me lever sans alcool. Je continue à boire. Ça veut dire que l'alcool devient ininterrompu.
Ça nous amène peut-être dans la dernière partie de notre émission Chercheur en ville, avec vous Thierry Philo, à nous interroger au-delà des constats et de des différences historiques et culturelles qui ont pu être abordées au travers de vos travaux, sur justement la méthodologie, la manière dont on s'y prend pour mesurer, quantifier et comparer. Et je sais que c'est un thème qui intéresse beaucoup mon complice Christian Lebar, le directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, qui a des questions là-dessus à vous poser. Alors je lui passe le micro.
Oui, c'est une question redoutable, et pour l'historien, et pour le sociologue, et pour l'anthropologue. C'est une question redoutable parce que on est quand même un petit peu obligé de s'appuyer sur ce que les gens disent, sur ce que les gens disent de ce qu'ils font, sur ce que les gens disent de ce qu'ils ont vu les autres faire. Donc dans tous les cas, il y a évidemment le prisme de la subjectivité. Vous l'avez bien mis en évidence, boire, ça peut être une norme sociale, ça peut être honteux. Donc ça peut être un comportement qu'on cache, mais ça peut être aussi glorieux d'une certaine façon, ça peut être un indicateur d'appartenance à la société adulte, voire à la société masculine adulte. Bon, bref, il y a une grande variété de connotations, d'identité au fond corrélées au fait de boire. Donc voilà, j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur les techniques que en particulier les sociologues utilisent pour faire parler les gens de leur pratique de consommation d'alcool et comment, quel biais ça
introduit. Je dirais que c'est plutôt l'approche de l'historien en l'occurrence, puisque en fait moi la démarche adoptée c'est quand même de comparer, de croiser le maximum d'informations, donc dans une démarche d'approche critique finalement, et donc de croiser à la fois des informations qui sont des informations écrites, puisque c'est quand même pour la période la plus ancienne c'est automatiquement la source de base, mais aussi de croiser avec pour la période plus récente des témoignages, donc des entretiens, tout ce qui peuvent être réalisés, c'est de comparer avec les données statistiques en analysant aussi justement le sens des données statistiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait justement du déclaratif, c'est un peu ce qui peut poser problème. Enfin, c'est une question que je me pose depuis longtemps sur les enquêtes en fait déclaratives sur lesquelles on s'appuie justement pour l'alcoolisation, pour reconnaître les comportements des jeunes.
Il y a des très belles pages dans le livre.
Moi, c'est un élément qui m'interpelle un peu dans la mesure où quelquefois je me dis, notamment dans le cadre de la Bretagne, effectivement, si l'on fait du déclaratif en Bretagne, notamment dans le cadre d'une journée d'appel à la défense. Donc on peut se poser la question de savoir si il n'y a pas aussi des réponses qui sont excessives, c'est-à-dire on attend de moi que je dise que je bois, donc je vais dire que je vais boire. Alors maintenant, ça c'est des points que les statisticiens on démonte en disant que non, il y a des approches croisées, etc., qui permettent de supprimer ces biais-là. Mais on peut quand même se poser en fait certaines questions là-dessus.
Oui, dans l'ouvrage collectif qu'évoquait Xavier tout à l'heure, la question est posée. Et que, quand on interroge quelqu'un qui a 70 ans sur des pratiques de consommation d'alcool après-guerre, qu'est-ce qu'on fait avec sa réponse?
Alors ça, c'est un vrai.
Il y a une part de récit de soi, de mise en scène de soi dans tous les sens. Quoi.
C'est un vrai problème.
On ne sait même pas dans quel sens faut corriger en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a une chose en fait que je me disais, parce que en regardant en fait dans Tous en piste, en fait, j'ai repris justement un témoignage comme cela, en fait, qui avait été à la suite d'un entretien. Puis je me suis dit, mais mince, on aurait dû mettre ce mot-là entre, parce qu'à chaque fois. Entre guillemets, non, ou mettre à côté un point d'interrogation pour montrer en fait l'interrogation de l'historien, quoi, par rapport à ce qui est dit par le témoin. Parce que le témoin parle, en fait, il est apprenti boulanger et il dit qu'il buvait du Perrier de façon régulière. Donc il y a un problème, quoi.
C'est peut-être du Perrier avec autre chose dedans.
Oui, mais c'est, disons, c'est.
Il appelait comme ça par commodité d'usage.
Je pense que c'est plutôt, il a évoqué, en fait, le Perrier, parce que ça doit être le mot qui lui est venu à l'esprit, mais je vois mal le Perrier, en consommation régulière dans les années 50-60, quoi. Donc surtout dans le milieu évoqué. Donc je crois que ça, ce sont des éléments qui sont effectivement importants, c'est d'essayer d'arriver à prendre de la distance, par rapport à, par exemple, à des témoignages, les relativiser, car on voit bien, bon, et d'ailleurs, c'était un des éléments, j'ai eu des étudiants à travailler là-dessus, à faire des entretiens auprès de plusieurs groupes d'aînés. Donc il y avait des aînés qui appartenaient à l'université du temps libre, donc plutôt enseignant ou bon milieu plutôt cadre, etc. Et puis ils avaient été dans des associations autour de l'Orient, etc. Et donc on avait plutôt au milieu rural, milieu ouvrier, et on voyait bien en fait de la part des témoignages qu'il y avait en fait pour l'université du temps libre, il y avait toute une partie de récits. C'était pas du tout ce qu'ils avaient vécu, c'est ce qu'ils voulaient projeter, des manières de voir.
Une reconstruction, en quelque sorte, de la mémoire.
De la mémoire, voilà. Et alors, d'ailleurs, c'est de la mémoire, c'est pas de l'histoire.
Pour contourner ça, est-ce qu'il y a des possibilités d'accéder à des données, alors beaucoup plus objectives, mais alors à une autre échelle, qui pourrait être liée à la médecine du travail?
Ah oui, c'est justement, c'est l'intérêt. Alors, il faut croiser en fait les informations. Bon, d'une part, parce qu'on a quand même beaucoup d'écrits sur les questions d'alcool, d'études. Il y a aussi une source, bon, qui n'est pas toujours de très bonne qualité, malheureusement, pour les périodes les plus anciennes, mais qui est quand même une source intéressante, c'est de penser aux tests de médecine, parce qu'on a beaucoup d'études, beaucoup d'analyses faites par les médecins, donc y compris sur, puisqu'il y a des périodes où on a beaucoup étudié les jeunes ou étudié les femmes.
Sur des populations exhaustives alors à peu
près ? C'est pas forcément sur des populations exhaustives, mais ça va être sur tel lycée, on a 1000 entretiens ou 1000 questionnaires qui ont été passés, donc ça permet d'avoir quand même une idée un petit peu des comportements, des pratiques aussi, par exemple des lycéens, au-delà et donc de les comparer. Quoi.
Annabelle, 23 ans.
Nous étions ensemble depuis 2 ans. Un soir, nous sommes allés chez des amis. Il a commencé à boire, à chanter, à brailler, à hurler. Les voisins sont venus, ça les dérangeait. Il s'est énervé. J'ai voulu le calmer. Son regard était fou et il m'a cogné. Je suis tombée. Il a continué à me frapper. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Ne me parlez plus de lui.
Face à l'alcool, ne dites pas « je ne savais pas ». www.atasante.rennes.fr.
Alors, on a démarré cette émission en évoquant l'inauguration de cette exposition Boire au musée de Bretagne au Champ Libre, qui va durer jusqu'au mois d'avril. C'est donc l'occasion aussi, peut-être pour un large public, de se questionner, de regarder cette réalité. Qu'est-ce qu'il faut en attendre en termes de prévention, d'action publique également? Est-ce que vous avez constaté des évolutions dans la manière de, sinon de stigmatiser, du moins d'accompagner ces pratiques dans la vie quotidienne?
Je crois qu'il y a deux choses en fait qu'il faut signaler. Il y a d'abord en fait ce qu'on pourrait dire l'évolution disons à long terme en fait de logiques de prévention, des logiques en fait des actions, enfin de ce sur quoi on va reposer. Et notamment en fait ce qui est quand même intéressant, c'est de rappeler que dans les années 1960, il y avait donc à cette époque-là, créé en 1954, le Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, donc qui était le porteur finalement des campagnes de l'époque, des campagnes publiques de communication publique, des campagnes d'affichage, des panneaux peints sur la Nationale 7 par exemple, sur l'alcool au volant. Donc c'est le Haut Comité qui était à la base de cela, et le message qui était porté à l'époque, c'est un message santé-sobriété, et donc avec une volonté d'expliquer ce qu'était la sobriété. Alors je crois que rien que cela, ça permet de mieux appréhender, de comprendre l'évolution avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était pas plus d'un litre de vin par jour.
Après, il y a eu un verre, ça va, trois verres, bonjour les gars, on se souvient tous, c'était il y a quoi, il y a 25 ans?
C'était dans les années, c'était 85, de toute façon c'est facile, c'est quand Edmond Hervé était secrétaire d'État à la Santé, donc c'est l'époque. Et d'ailleurs il y a eu à cette époque-là aussi l'année suivante la régionalisation en fait des campagnes, avec plusieurs régions qui étaient considérées comme des régions pilotes.
Et bien, il y avait la Bretagne dedans, Paris.
Hein, la Bretagne, voilà. Le Nord et l'Auvergne en fait, plus autant que je me souvienne, la Martinique.
Donc, et il y a eu des campagnes visant à ringardiser la consommation.
C'est ensuite, oui. Les campagnes de l'IN, ouais. Enfin du CFES et puis de l'INPES, donc là qui sont plus effectivement la volonté de
ringardiser,
quand t'as bu, etc. Mais qui deviennent au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils deviennent quand même beaucoup plus, incisives et parfois moralisatrices. C'est-à-dire que là,
Tendance, c'est quoi? Vous évoquez les réseaux sociaux, leur influence, ça va être là-dessus maintenant qu'il va falloir travailler ces nouveaux outils de communication pour porter ce type de message et les renouveler.
Sans doute, mais c'est aussi le regard que l'on va porter sur quel type de prévention que l'on veut mener, vers quoi on tend. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé de la période de la sobriété à la modération. Donc un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts, c'était la modération. Aujourd'hui, c'est consommation basse et on tend de plus en plus vers une consommation qui est carrément alcoolisation zéro.
Quoi. Et c'est le délit reconnu comme tel par le code de la route, avec la diminution progressive des taux d'alcoolémie autorisés lorsqu'on souffle dans le bain. ballon, ouais, et qu'on est au volant. C'est bien, ouais, la même démarche. Eh bien, sur ces évocations, on va pouvoir ne pas remplir nos verres tout de suite, parce qu'il est encore très tôt, et se dire qu'il y a beaucoup de choses à revisiter sur nos pratiques collectives et individuelles en matière de boire. Il y a cette exposition au Champ Libre, il y a vos ouvrages, Thierry Philo, dont on a cité quelques-uns. Vous allez pouvoir les retrouver d'ailleurs sur le podcast de l'émission et sur les sites partenaires de l'émission Chercheurs en Ville. Il nous reste à vous remercier, Thierry Philo, pour votre présence ce matin dans nos studios, et puis à vous donner rendez-vous dans un mois pour un nouveau rendez-vous de Chercheurs en Ville. Nous parlerons du prochain numéro de Place Publique. La revue consacre son dossier à Rennes et la Bretagne. Vous verrez, il y a là aussi beaucoup de choses à lire.
Et pour aller plus loin, on retrouve, comme chaque mois, Anne Kropotkine, chargée des médias numériques à l'UEB.
Nous vous invitons à lire les nombreux travaux de Thierry Philo sur le boire, dont l'ouvrage collectif très récent, discuté dans cette émission, « Boire, une affaire de sexe et d'âge, genre, génération et alcool » aux éditions de l'École des hautes études en santé publique. Ce livre est aussi relaté dans une conférence donnée à l'EHESP par Thierry Philo et Marie-Laure Deroff, disponible en podcast sur la Wiki Radio de l'UEB. Sans oublier les ouvrages essentiels sur le boire de Véronique Naum-Grapp, Didier Nourisson ou encore Christophe Moreau. Ces derniers ont participé avec Thierry Philo à la préparation de l'exposition Boire au Champ Libre qui se déroule d'octobre 2015 à avril 2016.
Merci beaucoup Anne Kropotkine, et j'ajoute un autre rendez-vous vendredi 23 octobre à 13h. Retrouvez sur l'antenne de Canal B une toute nouvelle émission, son nom Ricochet. Elle est proposée par les étudiants du Master Journalisme, Reportage et Enquête de Sciences Po Rennes. Ils vous proposeront donc des reportages, des chroniques, des interviews en résonance avec l'émission que vous venez d'écouter. C'est donc vendredi à 13h. Bonne journée à tous.
Chercheurs en Ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.